Donc cette vidéo, on peut juste pour compléter, on a parlé de la semaine dernière, on a parlé de Yona. Yona Navi, il était envoyé par Elisha c'était l'élève de Eliaou. Donc on a Eliaou Navi, après son élève c'est Elisha. Eliaou Navi l'a fait revivre, c'est un des seuls qui a fait revivre un mort. Et cet enfant il est sorti, c'était Yona justement. Et l'élève de Eliaou Navi aussi, il a fait revivre un mort, c'était qui? Habakkuk. Habakkuk, c'est un grand aussi. Et c'est, les deux, ils ont fait revivre. Okay? Mais en ce Yona, on a raconté toute l'histoire, qu'il était censé. C'est lui qui allait oindre le roi Yehou. Ouais, le roi Yehou. Et il lui dit voilà, à part, la semaine dernière, on a parlé qu'il devait faire teshuva toute sa ville. C'était ça le but de ce roi Yehou. Mais entre autres aussi, il doit tuer l'enfant de Achav. On avait parlé qu'au temps de Eliaou Hanavi, on avait dit que c'était un des anges qui est descendu dans ce monde pour faire de l'ordre. Et quand est-ce qu'il a... C'est-à-dire depuis la création de l'homme, Eliaou Hanavi est prévu de descendre dans ce bas monde. Il a choisi un temps qu'il fallait vraiment. Et c'était le temps du roi Achav. Achav, il était marié avec Isbel. Sa femme Isbel, c'était une voyou. Elle a tué une tonne de rabbanim. Elle a fait des meurtres. On avait raconté une fois qu'il y avait une parcelle de terrain. Elle appartenait à Navoth, à Nevoth. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué pour lui prendre son terrain. Elle était très, très, très... C'était une femme très dure. Et on avait raconté qu'il y avait, dans ce temps-là, le serviteur, et le conseiller, c'était Ovadia, le navi Ovadia, que lui, il a caché 50 dans une grotte et 50 dans une autre grotte. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait, il les nourrissait. Tu sais quoi? Tu sais quoi, de nourrir 100 personnes? Maintenant, à un moment, il n'avait plus d'argent, il ne restait plus d'argent. Il a emprunté à Achav avec intérêt pour pouvoir nourrir, tu te rends compte? Et après, à la fin de sa vie, comme il est mort, ils ont attaqué sa femme pour que sa femme, elle rembourse. Elle rembourse toutes ses dettes. Donc maintenant, ce Achav-là, il est mort, comme on avait dit que c'était le Naaman qui l'avait tué. Et après, il y a eu ce Achav, il avait un fils. Ce fils, donc la mère, la femme Isbel, elle n'est pas morte encore. Achav, il est mort, il s'est fait tuer d'une flèche comme ça qu'il a transpercée. Il est tombé, les chiens, ils ont sucé son sang. Et maintenant, il avait un enfant qui s'appelait Yehoram. Yehoram, c'était le fils de Achav. Et c'était aussi un roi d'Israël, encore une fois. Et lui aussi, c'était un voyou comme son père. C'était un rachat. Et il a pas fait tchouva. Même que Elisha, il lui a fait plein de nissim et niflaot. Il n'a pas voulu faire tchouva. Et donc Yona, il lui dit, voilà, maintenant il faut s'occuper de Yoram. Tu dois le tuer, ce Yoram. Il faut le tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie. Donc, Yehou, il a dit, moi je vais m'occuper de lui. Il va. Yoram, c'est un moment qu'il avait fait la guerre, il était fatigué, donc il n'est plus à force. Il a pris une flèche, il lui a tiré la flèche. Il est mort. La flèche a transpercé. Et ils ont pris son corps, ils l'ont jeté dans le champ où le père de Nevoth, où le père il avait piqué à Navoth, ok? Il y avait, et Elisha, il avait fait une promesse, et Eliaou aussi, il a dit, voilà, puisque Eliaou Navi, il avait dit à ce Achav, puisque tu t'es comporté de cette façon-là, ben tu vas mourir, et tes descendants aussi, et les chiens, ils vont sucer ton sang. Donc Yoram, il tombe, et voilà que les chiens, ils sucent son sang. Maintenant, il manque, et aussi, il a tué aussi, en même temps, il a tué aussi un cousin, lui. Et aussi, maintenant, il reste à tuer Isbel. Isbel, c'est la femme de Achav. Donc, c'était la mère de Yoram. Donc, comment on va la tuer? Isbel, elle a compris qu'ils vont venir l'attaquer. Elle a commencé à se maquiller, à se faire belle, pour essayer de le faire craquer, ce roi Yehou. Peut-être qu'il va craquer, il va se marier avec elle. Et il ne va pas la tuer. Il arrive, ni un ni deux. Il la prend, il te la jette par la fenêtre. Elle s'est fracassée en morceaux. Comme ça écrit, elle est tombée, elle est restée en morceaux. Et où elle est tombée? Elle est tombée dans le champ de Navoth, encore une fois. Dans ce fameux champ qu'elle avait piqué, qu'elle avait volé. Elle est tombée, les chiens, ils ont sucé son sang. Et il y a écrit que les membres qu'elle faisait des mitzvot, c'était ses bras, ils sont restés. La tête, elle est partie, et les bras, ils sont restés. Pourquoi les bras? Parce que elle, cette Isbel, elle était très voyou, mais il y avait un truc qu'elle faisait de bien. Quand elle voyait un khatan et une kala, elle allait les rendre sa mère. C'est qu'il y a une mitzva de rendre sa mère un khatan ve kala, zoché les cheveux kolot. celui qui rend heureux un Khatan Akala. Imagine, je te vois avec ta Kala, je te vois comme ça, avec ta R8, je te vois en train de rentrer, d'aller vers la Khoupa. Et je m'arrête, je te dis Mazal Tov. Ok ? Je t'ai rendu sa mère, Nakhon ? Ça te fait plaisir, même que tu ne me connais pas. Imagine, tu ne me connais pas. Tu me dis, ben, je t'ai rendu heureux. Non, si je viens à ton mariage et je commence à danser, je commence à faire des petites pirouettes comme ça, que ça te fait rigoler, ça te rend saméar, j'ai fait une grande mitzvah. C'est une grande mitzvah. Et cette Isabelle-là, elle faisait ça. Elle dansait, elle tapait. Donc tous les membres qui ont participé à cette mitzvah-là, ils sont restés intacts. On voit comme quoi que les membres qui font des mitzvot, ils sont intègres, ils restent. C'est mamache. Juste, ça me rappelle maintenant un truc. Une histoire. D'ailleurs, cette histoire-là, Ilan, tu racontes ça à ta mère. Elle était inscrite. Cette histoire-là, elle était inscrite à Yad Vashem. C'est quoi l'histoire de Yad Vashem ? Dans le bac, tu ne pouvais pas faire ça. Hein. Cache le portable. Écoute, à Yad Vashem, qu'est-ce qui s'est passé à Yad Vashem ? Cette histoire, elle est inscrite. C'était un couple. Tu entends, Ilan ? C'était un couple, ils avaient une fille. Et voilà que la guerre arrive, ils ont besoin de se sauver, de se cacher. Ils prennent leur enfant, ils avaient beaucoup d'argent ces gens-là, ils prennent tout leur bien et ils vont chez un couple de non-juifs. Il leur dit, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes d'accord d'élever ma fille ? Ouais ? Est-ce que vous êtes d'accord d'élever ma fille ? Ils ont dit ok. Ils ont donné tout leur argent, tout leur bien, tout ça. Ils ont dit, vous voulez l'élever le temps qu'on revienne. Si on revient, on revient. Si on ne revient pas, c'est votre fille. Ouais. Après 5 ans de guerre, ça s'est calmé et tout, ils reviennent, essayent de retrouver leur fille. Et ils vont, maintenant ils l'ont laissée à 2 ans la fille, hein, 2 ans. C'est des gens froums et tout. Ils ont laissé leur fille à 2 ans. Écoute cette histoire, Ilan. Ils arrivent vers leur fille. Donc ils ont la rencontre chez les parents qui adoptifs, et ils viennent vers la fille, et la fille, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe, je sais pas, elle sent qu'il y a un feeling, et donc elle sent quelque chose, mais elle sait pas quoi. D'un coup, la mère s'approche d'elle. Maintenant, elle, entre temps, la fille, la pauvre, a été élevée par des non-juifs, donc elle allait à l'église. Elle allait, vraiment, c'était comme une goya. Elle a tout perdu, quoi. Toute la religion, elle a perdu. Et sa mère, elle s'approche d'elle. Elle lui fait, il est Simer Elohim, qui est Ephraim ou qui est Naché. Je vois pas que la fille, de suite, elle dit Shabbat Shalom. La fille qui avait 2 ans, automatique, elle dit Shabbat Shalom. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était ancré en elle que la maman, tous les vendredis soirs, après l'allumage des bougies, qu'est-ce qu'elle faisait à sa fille ? Elle lui faisait la bénédiction. Il y a Simer Elohim, qui est Sarah Rivka Achevea, Yevaecha Hashem Veishmeecha. Et après, elle lui disait Shabbat Shalom. Et donc, ça s'est resté ancré en elle. Dès qu'elle a dit cette bracha-là, qu'est-ce qu'elle a répondu ? Shabbat Shalom. On voit comment c'est les choses ici. Quand on fait des mitzvot, ça reste ancré dans les membres de la personne. C'est joli, non, ces histoires ? Et c'est mamash, c'est-à-dire, c'est sorti des choses qui sont, comme on a dit, là, les membres qui font des mitzvot. Chaque fois, chaque membre qui a fait des mitzvot, ces membres-là, ils peuvent pas être abîmés, ils peuvent pas avoir des dommages. Si une voiture, j'avais un copain, il avait une voiture, mais bon, Hachem, il avait beaucoup les moyens, mais il avait une voiture qui datait de Noir quand il était bachour. Je dis, mais il faut pas, tu vas pas la changer une fois. Tout l'argent, il faut la dépenser un peu l'argent. Je sais pas, tu vas gagner. Combien tu vas garder dans ton compte ? Alors il me dit, regarde, cette voiture, j'ai pris pendant 30 ans, j'ai pris dedans Rav Neuwirth. C'est celui qui avait Shmirat Shabbat Kelecheta. Il me dit, comme j'ai pris un grand Rav, pour lui c'était un gadol ador, c'est sûr c'est un grand. Il a dit, pour moi, elle a telle cette voiture, elle a fait tellement de mitzvot que j'arrive pas à me séparer de cette voiture. Ouais, donc maintenant il a acheté une nouvelle voiture, mais il l'a mis de côté, celle-là. Déjà, elle est garée à côté de chez lui, il veut pas se débarrasser d'elle. Ouais, et je connais quelqu'un aussi à côté de la yeshiva. Il avait une voiture où il avait pris Baba Salé. C'était un Cohen, et c'est lui qui voyait, il prenait dans la voiture Baba Salé. Et cette voiture, c'était une Volvo. Et elle ne bougeait pas du parking. Ça nous énervait. Nous, on a besoin de se garer. Le type, sa voiture, elle ne bouge pas. Ça va, ta voiture, tu ne l'utilises pas, base là, jette-la. Bien que ça coûte de l'argent de jeter une voiture aussi. Même quand tu veux la jeter, ça coûte de l'argent, tu sais. Alors, il m'a dit, non, cette voiture, elle a, dedans, il y a eu Baba Salé. Baba Salé, il est rentré dans cette voiture. Tu te rends compte ? C'est, alors quoi, j'en ai à faire, Baba Salé. Il n'est plus là, Baba Salé. Le rabbi, ils ne sont plus là. Tous ces gens-là, c'est l'au-delà du rabbi. Il n'est plus là, le rabbi. Il n'est plus là. Non, mais ils ont réussi. C'est sûr que la Gdoucha, elle s'est ancrée dans ces murs. Ouais. C'est pour cela que, d'ailleurs, on fait Hanukkah Tabayit. Prends, on fait Hanukkah Tabayit, on fait l'inauguration d'une maison. Prends, on fait l'inauguration d'une maison. Parce que dans une maison, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant de rentrer dans cette maison. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, peut-être que, je sais pas moi, il y avait la Avodah Zara, ils ont fait des bêtises, ils ont fait des choses pas bien. Ils ont mis la télé, ils ont vu des choses pas bien. Les murs, ils ont imprégné de choses mauvaises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces murs, ils soient imprégnés de choses mauvaises? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut enlever tout. Ouais, il faut faire un nettoyage. Un nettoyage, ça se fait avec des brachot, avec une peinture. C'est une trashout, tu sens que c'est une nouvelle couche, et c'est nouveau. La maison est nouvelle, elle est pour moi cette maison. Il y a un nouveau début. On rentre dans une nouvelle maison, on va recommencer un nouveau thème, ouais. On va recommencer une nouvelle vie, on va essayer de s'améliorer, d'être plus bestinout. Ouais, si la femme a l'habitude de se promener en petit tongue, là, peut-être qu'elle va essayer de se promener en plus de sa noix devant les enfants, en pyjama, tu vois. Plein de sortes de faire les brachot. Une maison qui a entendu des brachot à voix haute, qui a eu des... que quelqu'un il a étudié dans la maison, qui a eu des Dvar Torah, la maison, elle est sainte. Toute la maison, elle change d'attitude. Voilà, ça, c'est l'histoire de Yoram et Isabelle. Et donc, la fin de Isabelle, c'est qu'aussi, elle est morte, elle est tombée sur le fameux terrain. Ok. Juste un petit chidouche, comme on a commencé tard aujourd'hui. Un petit chidouche sur la parasha de Korach. On sait que Korach, il y a écrit que Korach, il s'est disputé avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce qu'il voulait en fait devenir plus saint. Le fils de Lévi s'appelle Kehat. Il a eu trois enfants, Lévi, Gershon, Kehat ou Merari. Kehat, c'était Lévi, Tzadon Ilan, qui portait le Aaron à Kodesh. Il portait le Aaron à Kodesh, donc c'était Kadosh. Soit Aaron à Kodesh... Maintenant, Kehat, celui qui portait le Aaron, il a eu quatre enfants. Un qui s'appelle Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. De Amram, il est sorti Moshe, Aaron et Myriam. De Itzhar, il est sorti Korach. De Chevron, il n'a pas eu d'enfant. Uziel, il a eu un enfant. Et voilà que qui a reçu des places? Amram, il a eu Moshe, Aaron, Myriam, ils ont tous reçu des places. Korach, on l'a sauté. Chevron, il n'a pas d'enfant. Uziel, il a reçu encore cadre. Alors Korach, il est normal, il arrive, il dit « Attends, Moshe Rabbeinu, je pense que tu fais du mytho, là. Tout ce que tu fais, ce n'est pas droit ce que tu fais. Tu prends ce qui t'intéresse. Pourquoi tu m'as sauté, moi? Moi, j'étais là. Tu as pris trois places, tu as pris Cohen, tu as pris Lévi. Après l'autre, moi, Korach, je suis le prochain, je ne donne pas, tu me sautes au dernier. Pourquoi? Il a raison, non, Korach? Attends, je suis transparent. Oh, alors tu peux dire c'est Dieu, oui, mais quand tu... C'est vrai, Nachon, tout c'est Dieu, mais c'est-à-dire que quand tu rentres en mode Marloket, Dieu, il n'est pas là. Quand tu es en mode dispute, alors il n'y a plus Dieu. Tu es en mode maintenant naturel, réflexion, je réfléchis. Qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique? C'est vrai que si je réfléchis spirituellement, bah, c'est Mabaya, Moshe, Hachem, il lui a dit, toi, il t'a pas dit, c'est tout. Il écrit dans les Sfarim Akdoshim, le Chidusha Harim, il dit... que si Bémet Korach, il s'était maintenu et s'était abstenu de faire la baston, tu sais qu'est-ce qu'il aurait reçu? Il aurait reçu un poste qui n'a jamais existé. C'est quoi? Ça s'appelle Lévi Agolm, Lévi Grand. Comme il y a le Cohen Grand, il y a Lévi Grand. Ça n'existe pas un Lévi Grand. C'est-à-dire qu'il aurait chapeauté tous les Lévim. C'est un poste qui était inédit et qui était réservé pour Korach. Comme Korach, il a péché, ben on lui a retiré cette place-là. Comme ça dit le Chidush Harim. C'est-à-dire que Korach, lui, en fait, son problème à ce Korach-là, c'est qu'il a réussi à rassembler une assemblée de 250 personnes. Il y avait Datan Vaviram, il y avait aussi On Ben Pelet. On Ben Pelet, sa femme, elle a retiré de la baston. Pourquoi? Elle lui a dit, regarde, quand Moshe c'est le patron, toi tu es l'élève. Si Korach, il va être le patron, toi aussi tu vas être un élève. Donc tu gagnes rien. Parce que Korach, maintenant, il arrive avec un dossier comme ça, énorme, Korach. C'est dans Inan. Korach, il arrive avec un dossier, il dit, regarde, les Lévim, vous les prenez pour des poupées. Vous les avez rasés de haut en bas. Tu sais, ils ont pris Aaron, il a pris tous les Lévim, il a rasé tous les poils, de haut en bas. Après qu'il a rasé, il les prend, il les balance. Quatre points cardinaux. Attends, on n'est pas des... On n'est pas des poupées, ok? Et après, c'est pas ça. Il arrive avec des questions avec la mezouza, avec le tzitzit. Il a un dossier entier. Et qu'est-ce qu'il veut? Le rabbi de Lubavitch, lui, sa philosophie, c'est regarder toujours les points positifs. Bien que c'est des gens, quand on parle de la Torah, même des gens qui sont réchaïm, il essaie de trouver un côté positif. Ils étaient pas, ils ont fait une bêtise, mais ils avaient un côté positif. C'est-à-dire quoi? Parce que sinon, on n'aurait pas parlé d'eux. Comme je dis toujours, on aurait parlé de Picsou Magazine, pas de Korach. Korach, en fait, ce qu'il cherchait, c'est la proximité avec Dieu. Comme je dis toujours, les Kohanim, Kohen Gadol, au deuxième temple, ouais, il y avait plus de 300 Kohanim. Chaque année, ils mouraient. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils rentraient avec de l'argent. Alors, les commentaires, ils demandent le Rabbi de Lubavitch, ils disent, mais il est fou! Tu vois ton copain, il meurt. Le deuxième, le troisième, le quatrième, il meurt. Ben arrête-toi, tu sais que tu vas mourir. J'ai rien à faire, je veux mourir. Mais si, une seconde, je vais rentrer dans le Kodesh Kodashim, ça me suffit. Imagine un milliardaire, il a tout l'argent du monde, il a fait tous les kiffs du monde, il a un fantasme depuis qu'il a 5 ans, c'est de monter sur la ligne. On lui dit, monsieur, t'as l'argent, t'as tout. Mais tu sais que si tu veux monter sur la lune, il y a une possibilité que tu ne reviennes pas, que la fusée, elle explose. Il n'a rien à faire, il ne regarde pas ça, il n'est pas dans ce monde, lui. Qu'elle explose ou qu'elle n'explose pas, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est arriver dans la lune. Ouais, je veux voler, ok? Je veux arriver dans la lune. Maintenant, est-ce que ça va exploser ou pas? J'en ai rien à faire. Eux aussi, les Kohanim, Korach, il a dit, moi, ce que je veux, je vais m'élever. Je veux m'élever encore plus haut. Je veux avoir une proximité avec Dieu encore plus. C'est ça, ça. Son point de marque-loquette. Plus t'es saint, si par exemple tu es Kohen, tu peux entrer au sein des saints. Tu peux être Kohen Gadol. Si tu es que Lévi, tu vas juste chanter. Tu vas faire la harpe. Mais si tu vas être Kohen, tu vas réussir à rentrer dans le Bétamidage, dans l'endroit le plus saint des saints. Comme ça, le Rabbi de Lubavitch, il regarde le point, toujours un côté positif. Ok, moi je regarde pas tellement ce côté-là. Je veux le côté un peu négatif, mais pas vraiment. Le Harizal, il dit que si tu prends Moshe Rabbeinu, tu prends la gématria de Moshe, tu enlèves Evel, c'était l'enfant de Adam Harishon, il te restera Korach. Comme ça dit le Harizal. Ça veut dire quoi? On sait que dans les Sfarim HaKdoshim, il est écrit que on sait que les enfants d'Adam Harishon, ils sont bagarrés. Ok? Ils sont bagarrés. Et écrit dans le Pasuk, dans le chapitre dans Bereshit, c'est écrit qu'il a dit Caïn à Evel, et après à la fin du Pasuk, on sait pas, il y a pas, la Torah ne dit pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Et de suite, il a écrit qu'il a mis un il a tué. On ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit pour qu'il y ait une baston qui s'est chauffée. C'était quoi? Sur quoi ils sont chauffés? Ouais. Là, j'étais en train de revenir du collège. Et je marchais comme ça. Il y a un père. Il était super nerveux comme ça. Il revient, moi je croyais, je dis, il s'amuse. Il était nerveux, il commençait à hurler à un enfant de 3 ans comme ça. Il revient vers lui, l'enfant, je sais pas, il a fait le gnangnang, tu vois, il s'est mis par terre, il a commencé à pleurer. Il est arrivé, il lui a mis un coup de pied, c'est comme si c'était un ballon de foot. J'ai dit à ma femme, arrête-toi de suite, je vais le fracasser celui-là. C'est quoi l'embrouille là? Il frappe son fils comme ça, mais il faut l'interner ce père. Tu sais, jamais j'ai vu un père comme ça qui frappe, tu vois. Et il a commencé le type, il a commencé à me dire, presque il est venu me frapper, tu vois. Il m'a dit, viens, sors, tu vois ce que je te fais. Bon, j'ai dit, je vais pas commencer à m'embrouiller pour ça. Mais, parce qu'il y a ma femme. S'il n'y a pas ma femme, frérot. Écoute, alors, en tous les cas, non, sérieusement, mais c'est quoi ce truc? Un père qui frappe, maintenant, ça n'existe plus qu'on frappe. Même si on frappe, tu peux mettre une petite, tu vois, un petit claque, mais un enfant de 3 ans, tu lui mets un coup de. Tu vois, il a fait un shoot, presque il a envoyé, quoi, bébé. Alors, presque j'ai fait comme ça, j'ai attrapé le bébé. Pour te dire que, c'est quoi le casse? On est énervé, tu vois. Il était énervé sur son fils, après il s'énerve sur moi. Ma kécher, t'es énervé sur ton fils. C'était pas un bon moment. Moi aussi, j'aurais dû pas. J'étais mis tapec. J'ai dit, est-ce que je veux venir parce qu'il est énervé? C'est pas bon. Tu sais, un type qui est énervé, il peut te fracasser. Pas fracasser parce qu'il a envie de te fracasser, parce qu'il est énervé. Et toi, tu viens au mauvais moment. Pas que j'avais peur, mais c'est-à-dire que c'était pas le moment tellement de lui parler. Peut-être que demain, si je le revois, Je lui ai fait une petite sikha de moussard, je lui ai expliqué. Si c'est un problème, il faut se faire suivre par un psychologue. Mais frapper des enfants comme ça, ça n'existe pas. On ne frappe pas. Écoute, ouais, mais là, il est en mode calme. Il peut écouter. Après, s'il n'écoute pas, après, on peut se... Alors, maintenant, ce que je suis en train de dire, non, vraiment. Ilan. Donc, je continue. Donc, Korach, le Arizal, il dit, et Raphaël Vita, il dit, que Evel, il a tué Caïn. Tu connais ça? Caïn, il a tué Evel. Tu connais ça dans la Torah? Pourquoi il a tué? Vayomer. Il y a plusieurs raisons pourquoi Vayomer. Il y en a qui disent qu'il a tué parce que et les deux, ils sont nés avec une sœur jumelle. Caïn, il est né avec une sœur jumelle. Et Evel, il est né avec deux. Donc Caïn l'a dit, chacun prend une. Et la deuxième, c'est pour moi, parce que je suis le premier-né. Premier-né, il touche deux pas. Caïn, il a dit non. Baston, il a tué. Ça, c'est une des raisons. Maintenant, il y a écrit, Hachem, il dit à Caïn, il dit, regarde, dans cette génération, tu vas mourir. Cette génération. La septième génération, c'est qui va le tuer? C'est Lémer. Lémer et Touval Caïn. Lémer était aveugle. Touval Caïn, c'était son fils. Lémer, il avait la force de tirer. Touval Caïn, il n'avait pas la force. Il chassait comme ça, il chassait les animaux. Et une fois, ils ont cru que c'était un animal, ils ont tiré. En fait, c'était Caïn, ils l'ont tué. Il y a écrit Shiva Taïm, dans cette génération, dans la Torah, il y a écrit Yukam. Yud, Kuf, Mem. Yud, dit les Mekoubalim, que monsieur Caïn, il va revenir en Gilgoul trois fois. Chez le Yud, chez le Yitro, Kouf, chez Korach, et chez qui? Chez le Mitri, chez l'Égyptien. Alors je vais raconter. Première fois que Caïn y revient, c'est l'Égyptien. C'est quoi l'Égyptien? L'Égyptien, hein, monsieur est l'Égyptien en Égypte. Moshe, il arrive devant l'Égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait cet Égyptien, ce voyou là? Il a envoyé le mari travailler. Et il se faxait dans le lit de sa femme. Sa femme ne remarquait pas. C'est Shlomit Badovri. Elle ne savait pas que c'était un Égyptien, que c'était c'est pas son mari. Et elle faisait avec lui. Et il envoyait faire travailler son mari. Chaque fois, il faisait ça. Elle est tombée enceinte. Et d'ailleurs, cet enfant-là, il est sorti le Megadef, celui qui va maudire Dieu dans la Torah. Et donc, encore une fois, il a fait la même bêtise. Ce Mitzri-là, il devait arranger ce que Caïn, il a volé la sœur jumelle de Evel. Mais il n'a pas arrangé parce qu'il a recraqué. Donc Yitro, qu'est-ce qu'il fait? Yitro, il naît. Et Yitro, maintenant, il a une fille. À qui il va lui donner sa fille? Il va lui donner à qui? À Moshe. C'est qui Moshe? Moshe, c'est le tikkun de Evel. C'est la résurrection de Evel, ok? Evel. Donc Moshe, maintenant, Rabbeinu, il reçoit quelle fille? La sœur jumelle. Après, Mvita, il dit que la fille de Yitro, donc Sipora, c'était la sœur jumelle de Evel que... Caïn, il a pris. Donc, Yitro, c'est Caïn. Yitro, il redonne à Moshe Rabbeinu, à Evel, il lui redonne sa sœur jumelle. Regarde, pourquoi je suis tombé? Reprends ta sœur jumelle. Et on voit que ça, c'est pas fini le tikkun. Qu'en dirait que le tikkun, il n'est pas fini. Ça va se passer aussi avec Korach. Korach aussi, la même chose. Selon certains, il écrit, va Yomer Hachem el Moshe. Hachem, il a dit à Moshe. Caïn, il a dit à Evel. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Caïn, qu'est-ce qu'il a dit à Evel? On ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il y en a qui disent qu'il a dit la paracha de Tzitzit. Il lui a dit, regarde, parce qu'ils sont. Il y en a, d'après certains, sur quoi ils sont disputés? Caïn, il disait, le parterre, c'est à moi. Tout les terrains, c'est à moi. Evel, il disait, tout le mobilier, c'est à moi. Donc maintenant, Caïn, il dit à Evel, maintenant tu vas marcher en plein air. Parce que la terre, elle m'appartient. Mais d'un côté, Caïn, Vayomer, c'est quoi Vayomer? Il a dit la paracha de Tzitzit. Vayomer, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit la paracha de Tzitzit. Que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit comme paracha de Tzitzit? Vayomer Hachem el Moshe, la troisième paracha de Tzitzit. Caïn, il a dit à Evel, il a dit, regarde, c'est pas possible, c'est impossible qu'on va faire ce partage-là. Moi, je prends l'immobilier, toi, tu vas prendre le mobilier. Parce que moi, sinon, comment je vais faire la misa de Tzitzit? Je pourrais pas. Et là, il y a eu une baston, et ils sont disputés. Chazak, on continue la semaine prochaine.